Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live de Radio Éthique. Il sera aujourd'hui consacré aux initiatives positives de la principauté en matière de développement durable. Alors il sera question de potagers sur les toits, d'innovation technologique, de tourisme vert et d'associations engagées sur le terrain au plus près des préoccupations concrètes. Nous reviendrons sur les actions menées en 2016 et les projets qui verront le jour, on l'espère, en 2017. Et puisqu'à tout seigneur, tout honneur, nous commençons avec la Fondation Prince Albert II de Monaco. Et comme vous le savez, elle soutient plus de 250 projets à travers le monde pour préserver l'environnement. On reçoit donc Philippe Mondielli, son directeur scientifique. Bonjour Philippe.
Bonjour Stéphanie.
Comment allez-vous ?
Ah bah écoutez, ma foi, fort bien.
J'espère que vous êtes en forme parce que vous allez quasiment rester avec nous tout le long de l'émission. Évidemment, on aura d'autres invités, mais vous êtes la vedette aujourd'hui.
Ben, j'en suis ravi et surtout très honoré.
Alors quelques mots, bon, on va pas détailler hein, les 269 projets,
oui.
C'est ça ?
Oh, même plus, puisque aujourd'hui, on a même dépassé 350 projets en fait.
Ah oui ?
Parce que voilà, ça c'est des comptabilités différentes, mais je crois que ce qui est important, c'est pas tellement le nombre. C'est d'abord la qualité, parce qu'évidemment, dans ces projets, il y a des tout petits projets, mmh. Il y en a un des plus importants, et évidemment, ils ont tous un rôle, il y a un sens, mais voilà, c'est, il y a surtout des initiatives qui changent les choses, et c'est ce dont nous allons parler, je pense.
Oui, et des initiatives, justement, qui se déroulent à Monaco. Cette année, il y en a eu une importante.
Oui, alors il y en a plusieurs.
Oui, hein, bien sûr.
Mais notamment, en ce moment, nous sommes très actifs sur la problématique du plastique.
Du plastique en Méditerranée. Il y avait eu ce colloque il y a 2 ans.
Oui, alors ça a commencé il y a 2 ans en fait, quand on s'est investi. Il y a eu un colloque international où on avait réuni tous les acteurs de la filière plastique. Puisque, bon, comme tout le monde le sait, le plastique, c'est vraiment le problème écologique, un des problèmes écologiques importants actuels. Hein. Bon, voilà, on a tous vu l'état de nos océans, on a tous entendu parler du 7e continent, etc. etc. Et le prince Albert II a souhaité que sa fondation s'engage justement sur cette thématique. Donc, il y a 2 ans, nous avons invité tous les acteurs pour poser... la question, essayer d'avancer sur le sujet. Et c'est là qu'est né, en fait, un groupe, une task force qui s'appelle BIMED, Beyond Plastic Med, dont l'objectif est d'étudier comment fermer le robinet de la pollution plastique.
C'est ça, c'est pas aller ramasser le plastique qui serait déjà présent en Méditerranée, bien qu'un jour peut-être on y arrivera, c'est commencer à réduire les principaux acteurs, enfin le nombre de particules ou de tonnes de plastique que les différents acteurs méditerranéens déversent chaque année.
Oui, c'est exact. Alors on a tous vu des images de bateaux révolutionnaires qui essaient de ramasser les déchets dans les océans. On a tous vu ces bouteilles plastiques dans les plus grandes profondeurs de nos mers. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est que bon, c'est bien, évidemment, il faut s'en occuper. Mais il faut commencer à s'occuper d'où elle vient, de la provenance de cette pollution. La provenance de cette pollution est à terre. Ce sont les activités humaines. Et c'est là où il faut travailler. C'est là où il faut changer un peu le paradigme, le concept. Il faut essayer de travailler pour justement arrêter ces tonnages de plastique qui finissent tous les jours en mer. C'est là-dessus qu'on veut travailler. Et c'est là-dessus qu'on mobilise justement les acteurs pour aller dans ce sens.
Alors parmi ces acteurs, il y a les industriels. Est-ce que vous arrivez à parler avec eux ? Est-ce que le dialogue est possible ?
Oui, alors il est possible quand il y a des solutions, il est toujours possible. Ils sont conscients du problème. Hein. Quand on essaie de tracer les plastiques, il n'y a aucun industriel qui est très fier de se dire je suis responsable. D'ailleurs, il y a une petite hypocrisie. On se souvient tous des sacs plastiques où il y a marqué c'est bon pour l'environnement, mais rarement le logo du magasin dessus. Mm-hmm. C'est pas innocent. Donc oui, ils ont envie de changer, de progresser. On a vu déjà sur Monaco, il faut reconnaître, pas que sur Monaco, mais enfin notamment sur Monaco, puisqu'on est sur Monaco, parlons-en, de l'action du gouvernement qui a interdit depuis le mois de juin l'usage des sacs plastiques.
À usage unique.
Voilà, alors, l'utilisation des sacs plastiques à usage unique, tout à fait.
Alors, c'est vrai, là, il n'y en a plus à l'heure actuelle.
Alors, ça va se faire par étapes. Il n'y en a plus les sacs tels qu'on les a à la caisse, en fait. Ça, il n'y en a plus.
Donc, supermarché, hypermarché, plus de sacs de caisse, plus à de part payants, réutilisables, les cabas qu'on connaît.
Voilà, parce que, bon, justement, on travaille sur le durable. On se dit, un cabas, on met sur un plastique. Bon, on préfère l'avoir, évidemment, dans un autre matériel. Mais bon, voilà, il faut éviter de jeter, il faut réutiliser. Par contre, ce qui mettra un peu plus de temps, c'est le plastique pour les fruits et légumes, par exemple, où là, ça va nécessiter encore un petit peu de temps. Alors, je ne connais pas exactement les échéances, mais quand bien même, il y a des supermarchés à Monaco qui ont déjà fait l'effort. Et pour les fruits et légumes, vous avez des sacs papier qui sont à disposition des clients. Donc, d'accord. Vous voyez, il y a une vraie dynamique.
Et puis, il y a tous ces petits restaurateurs un peu ambulants, enfin, tout ce qui est pizza, etc., vente un peu de snacking le midi. Là, il y a encore beaucoup de sachets plastiques.
Oui.
Et de couverts en plastique, d'ailleurs.
Alors, voilà. Hein. Alors, les sachets plastiques, c'est en train d'évoluer. Hein. De plus en plus, là aussi, c'est dans des sacs papier maintenant. Les couverts plastiques, ça va être plus compliqué. Donc, c'est dans 1 ou 2 ans que ce sera interdit, mais ça va être interdit.
Et oui, mais la France sera d'ailleurs la première nation, le premier État à interdire les couverts jetables en plastique.
Voilà, donc nous, on va suivre ou on espère anticiper.
Ah, ce serait bien, oui.
Oui, mais parce que sur le sac plastique, on a été un petit peu... voilà, quelques mois après, on était devant eux. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Ça, c'est bien. Et donc, voilà. Bon, après... Évidemment, le problème, c'est que ce plastique, on se bat contre lui parce que bon, il finit dans les océans. Le problème, c'est qu'autour de la mer Méditerranée, il y a plusieurs pays. On n'a pas tous le même niveau de développement, on n'a pas tous la même culture. Et c'est pour ça que il faut que ce travail soit global. Il ne suffit pas d'être bien chez nous, il faut toujours faire le ménage devant sa porte, ça c'est bien connu. C'est ce que l'on fait, puisque les actions de Monaco sont nées en parallèle de cette fameuse conférence internationale sur le plastique. Donc bon, voilà, ça participe à une action commune de tous les acteurs monégasques, que ce soit le gouvernement, la fondation, les associations aussi, on en parlera plus tard. Donc tout ça va dans le bon sens. Mais maintenant, il faut aussi porter la bonne parole. Il y a
Et créer un véritable réseau, des partenaires à travers la Méditerranée.
Et créer un véritable réseau. Et c'est pour ça qu'on reboucle avec la fameuse conférence, cette fameuse task force qu'on appelle BIMED. Son objectif principal, c'est créer un réseau d'acteurs méditerranéens engagés contre la pollution plastique. C'est vraiment l'objectif.
Alors ça, c'était une des belles initiatives de la Fondation qui a eu lieu également cette année, enfin qui a continué. Alors, mais qui va continuer ?
Qui va continuer, puisque là, actuellement, on a lancé l'AMI, c'est l'appel à micro-initiatives. Donc cet appel, il consiste en quoi ? Il consiste à essayer à proposer aux ONG, à proposer aux collectivités territoriales, à proposer aux petites sociétés une aide financière pour qui voudrait développer une idée pour lutter contre le plastique, contre la pollution plastique. Donc pour trouver des alternatives plastiques, par exemple. Pourquoi on a fait ça ? Alors c'est pas des gros montants, hein, c'est des soutiens financiers de l'ordre de 10 000 euros. On a fait ça parce que des fois, une petite somme, enfin une petite somme qui pour une ONG est quand même conséquente, eh bien, peut initier une dynamique, peut changer les choses. On est persuadé que dans certains pays, le changement ne viendra pas des décideurs, mais il viendra de la société civile. Et en créant ce réseau d'ONG, d'acteurs méditerranéens, on pense que on va toucher société civile et peut-être ensuite les gouvernements suivront. C'est comme ça qu'on va, on espère, avoir un ensemble de pays vertueux vis-à-vis du plastique en Méditerranée.
Donc ça concerne le plastique. Ce plastique, évidemment, il a un impact sur la faune sauvage, la faune aquatique, du coup. Ça aussi, la faune sauvage, c'est un thème qui tient une place importante. Et surtout en 2017, il prendra encore plus d'importance. C'est ça pour la Fondation Prince Albert II.
Oui.
La faune sauvage, quelle est sa place dans la société moderne ?
Oui, tout à fait.
C'est un colloque que vous allez organiser.
Même un workshop, en fait, hein, puisqu'on va vraiment travailler, des spécialistes vont se réunir pour se poser cette question qui est presque philosophique, finalement. Hein, puisque, on voit aujourd'hui dans nos montagnes le retour de grands prédateurs.
Oui, il y a le loup, on pense aussi aux requins.
On pense aux requins à La Réunion, par exemple. On en a tous entendu parler. Alors, les loups, ça mange les moutons, les requins,
Ça peut manger une jambe de surfeur. Même si c'est pas son plat.
Même si c'est pas son plat favori. Souvent,
ça reste très rare.
Souvent, ça arrive quand il y a des. Pourtant, une prévention qui est faite sur la plage parce que les eaux sont troubles ou plus que ça. Voilà. Donc là, souvent, on s'aperçoit que la première action, c'est il faut éradiquer ces espèces parce qu'elles sont nuisibles. Ouais. Elles sont nuisibles. Et ça, c'est un vrai problème. Et souvent, nous, on fait le parallèle avec, par exemple, quand vous êtes en montagne, il y a une avalanche. Bon, ben voilà, on se dit, on ne devait pas être là. Ce n'est pas pour autant qu'on demande de raser la montagne. Mmh. C'est un risque qui existe, qu'on accepte. Or, le risque du grand prédateur, alors qu'il est indispensable pour l'équilibre des espèces, pour la chaîne alimentaire, lui, ben voilà, il nous embête un peu dans nos activités.
Les activités économiques, comme le tourisme pour le requin, ou tout ce qui est pastoral pour le loup.
Et donc, voilà, la solution, souvent, et on peut le comprendre, on peut se mettre à la place, que ce soit des opérateurs touristiques à La Réunion ou des bergers dans la région. On peut comprendre que, bon, ben voilà, c'est déjà difficile. Ce sont des métiers difficiles. Et ben voilà, il y a cette espèce qui n'était pas là.
Qui n'était plus là
parce que évidemment
de tout temps le berger a su faire avec le loup.
Mais bien sûr, oui, de tout temps. Et d'ailleurs, dans certains pays, il faut savoir que sans aller très loin, en Italie ou en Espagne, il y a 10 fois plus de loups et que bon, voilà, ça pose moins de problèmes. Donc c'est vraiment une adaptation de nos activités économiques par rapport à ce retour on devrait tous s'en réjouir parce que. Si les grands prédateurs reviennent, c'est qu'on a une nature en bonne santé. Donc, finalement, l'objectif de ce workshop, ça va être d'essayer d'allier en fait l'économie, le besoin d'une nature sécurisée et d'essayer de trouver des solutions. Ces solutions, elles existent dans d'autres pays, ça marche très bien. Pour cela, il faut évidemment accompagner les acteurs et leur montrer que le loup, au lieu d'être nuisible, ça peut être une chance, ça peut être un argument même économique, commercial, pour des produits. On a vu dans certains pays, il y a la patte du loup sur les produits. C'est un facteur de chance parce que le loup, ça peut être touristique, tout à fait. Ça fait peur, mais ça peut être touristique. Et donc, c'est une bonne. Il faut montrer l'intérêt qu'il peut avoir économiquement. Et c'est comme ça qu'on va faire changer les concepts. Voilà, il faut bien être conscient que les notions justes environnementales, la biodiversité, il faut la protéger, ça ne suffit pas. Il faut montrer que cette biodiversité, c'est une chance aussi au niveau économique. Et c'est comme ça qu'on fera changer les acteurs.
Et c'est comme ça que vous allez vous y prendre également pour la semaine des océans.
Alors la semaine des océans, bon, il y a moins de problèmes, non? Parce que les océans, il y a beaucoup de problèmes. Alors, chaque année, on organise la Monaco Blue Initiative. La Monaco Blue Initiative,
C'est très sérieux. C'est des scientifiques qui se rassemblent. Voilà. J'ai pu y assister une fois ou deux. C'est sérieux.
Voilà, c'est sérieux. Voilà.
On rigole pas.
Non. on peut aller à d'autres manifestations pour rigoler. Mais enfin, voilà, on essaie d'avancer. C'est aussi une sorte de think tank sur les problématiques. Étant donné que le fil rouge, c'est plutôt les aires marines protégées quand même. L'année dernière, on a beaucoup parlé d'aquaculture parce que c'est un problème. On peut trouver aussi, c'est toujours pareil, on ne peut pas oublier l'économie, on ne peut pas oublier l'homme dans la protection de la nature. Il faut que ça soit, il faut que ça fonctionne ensemble. Il faut qu'il y ait une harmonie entre, d'une part, la nature et d'autre part, le besoin de l'homme et d'avoir des activités.
Et sa gestion économique, c'est un peu comme pour le bois, pour tout ce qui est FSC, PEFC. Quand on donne une valeur à ce qui est menacé et qu'on l'intègre dans l'économie, d'un coup, il prend une place qui est protégée par définition.
Exactement. Et on sait que la vraie protection,
c'est la
valeur économique aujourd'hui. Bon, voilà. C'est comme ça, mais il faut en être conscient. Et donc, voilà. Alors, autour de cet événement, on a décidé d'en faire beaucoup plus. Et ça s'est transformé en la semaine des océans, qui aura lieu donc les derniers jours de mars, du 28 mars au 4 avril. Et donc, il y a un certain nombre d'événements qui vont être regroupés. Alors, pourquoi on les regroupe? Parce que finalement, ils parlent tous des océans. Ça permettra d'avoir des personnes... des acteurs principaux, majeurs, qui pourront venir, pas juste pour un événement, mais pour plusieurs. Donc, parmi ces manifestations, si je peux en dire quelques-unes, on a la réunion des patrons of nature de l'IUCN. Donc, ce sont des sommités qui sont des, souvent, il y a quelques têtes couronnées qui viennent. Il y a aussi la réunion des Ocean Elders. Aussi, c'est des célébrités comme Richard Branson, par exemple, qui fait partie de ce groupe.
Richard sera là ?
Alors, je ne sais pas s'il sera là. Ah. En tout cas, l'association, enfin, ce groupe-là, ce groupe dont il est membre, il sera, on espère. Et puis ensuite, ben, nous aurons aussi des journées plus thématiques sur, par exemple, les mouillages écologiques. Parce que c'est un vrai problème, les mouillages aussi. Hein. On sait tous, on voit tous ces bateaux qui jettent leurs ancres. Bon, ben voilà, on est bien placé ici à Monaco parce qu'on a beaucoup de plaisance. De savoir que c'est un gros problème, ben là, c'est Ramoges qui va organiser un workshop sur cette thématique. Bon, on aura aussi Pélagos qui va en profiter de cette semaine des océans pour peut-être signer l'accord de siège. Bon, voilà, vous voyez, toutes ces organisations qui travaillent pour la même cause vont se retrouver et Monaco va devenir finalement un peu la capitale des océans pendant une semaine.
Eh bien, c'est beau tout ça, c'est un beau programme. C'est beau la vie, c'est le morceau que vous avez choisi. Pourquoi ? Mickey 3D ?
Alors, Mickey 3D, bon, on connaît tous le tube qui s'appelait Respire à une époque. Et là, alors c'est un peu spécial à la radio de présenter ce titre parce que j'encourage en tout cas tous les auditeurs à aller voir le clip de cette chanson. Parce que une fois qu'on a vu ce clip, on n'est plus comme avant. Hein. C'est quelque chose de terrible. Alors, oui, il y a un lien entre les paroles et le clip, c'est pas évident, mais en tout cas, les images font froid dans le dos, mais c'est malheureusement la réalité. Et donc, j'invite tous les auditeurs à aller voir ce clip. Je crois qu'après, l'omelette n'aura plus le même goût.
Alors, on n'a pas les images, mais on a le son. Oui, et ben voilà, super.
Regarde un peu les survivants. Au fond des dents, ils voudraient changer d'autoroute, mais c'est pas comme ça qu'on s'y prend. Ne fais plus confiance à personne, c'est la devise des naufragés. Y'a toujours un con qui klaxonne pour qu'on continue d'avancer. C'est beau la vie quand on y pense, un peu moins quand on la dépense, à s'énerver toute la journée, on finit par tout oublier. N'ayons plus peur de l'essentiel, n'oublions pas d'être fidèles à ceux qui nous montrent le ciel pour voler nos âmes. Regarde un peu vers l'horizon, c'est la nouvelle génération qui n'a pas connu l'oppression, mais lève le bras pour la nation. Regarde un peu la gueule des morts, on dirait Pépé qui s'endort. Après les prochaines élections, faudra peut-être s'enfuir en avion. Et si tu m'emmènes à Tokyo, je prendrai sûrement quelques photos. Mais si tu m'emmènes à Pyongyang, j'ai bien peur d'avaler ma langue. Si tu m'emmènes à Hollywood, j'irai moonwalker dans la foule. Mais si tu m'emmènes à Cuba, j'irai danser le cha-cha-cha. C'est beau la vie quand on y pense, un peu moins quand on la dépense, à s'énerver toute la journée, on finit par tout oublier.
n'ayons plus peur de l'essentiel. N'oublions pas d'être fidèles à ceux qui nous montrent le ciel pour voler nos âmes. Et si tu m'emmènes à Tokyo, je prendrai sûrement quelques photos. Mais si tu m'emmènes à Pyongyang, j'ai bien peur d'avaler ma langue.
Ben nous, on est à Monaco, on est toujours en direct du Stars and Bar et on se trouve avec Jessica Sbaraglia, qui est la fondatrice de Terre de Monaco. Alors, c'est une entreprise qui est nouvelle et qui a pour objectif de développer l'agriculture urbaine. Bonjour Jessica.
Bonjour.
Alors, l'agriculture urbaine, c'est où ? C'est sur les toits, sur les balcons, partout il y a de la place ?
Sur les terrasses aussi.
Les terrasses.
Et aux alentours des bâtiments, ça concerne le projet Monaco et les communes limitrophes.
Les communes limitrophes aussi.
Oui, oui. Et donc l'agriculture urbaine, ça veut dire quoi ? Ben, c'est des potagers faits dans les valeurs du bio et soit hors sol quand on peut ou hors sol. Alors, et après, il y a un écosystème. Mais...
Ah ben vous, racontez-nous tout ça. Expliquez-nous un petit peu votre projet.
L'écosystème, c'est que j'essaie d'intégrer également des poules quand j'ai l'occasion et des ruches. Pourquoi les poules ?
Les poules pour les déchets, c'est ça ? Les
alors,
déchets végétaux ?
Déjà, elles mangent nos déchets, les déchets du potager. Elles font également de l'engrais et des œufs. Donc, c'est un vrai circuit fermé. Et les ruches, c'est surtout valable pour les toits. Une abeille n'a pas forcément la logique de monter pour aller chercher des fleurs. Et donc, du coup, on les prend avec nous pour qu'elles pollinisent notre potager.
D'accord. Mais ça, c'est bien trouvé, c'est bien réfléchi. Alors, mais est-ce que véritablement le but, c'est de créer une production locale ou plutôt de sensibiliser les acteurs politiques et les résidents de Monaco ?
Non, ce qui me porte et ce que je souhaiterais dans les années qui viennent, c'est d'être reconnue comme une véritable agricultrice urbaine. Ça fait un bon bout de temps, près de 200 ans, qu'il n'existe plus d'agriculture urbaine, enfin d'agriculture tout court en principauté. Et ça fait partie des objectifs de Terre de Monaco de faire une vraie exploitation urbaine qui peut produire suffisamment pour que ça ne soit pas utopique.
Combien de kilos ont été récoltés jusqu'à présent ?
Alors là, actuellement, on a 400 mètres carrés au Monte Carlo Bay, qui sont une exploitation urbaine, et 30 mètres carrés un peu plus à la Fondation Prince Albert II de Monaco. Où là, c'est une prestation de service, mais je comptabilisais également la production et on est à passer 280 kilos, sachant qu'on a commencé le premier potager fin juin.
Fin juin, donc vous avez eu toute la production estivale avec les fruits du soleil, la tomate, la courgette, etc.
On était déjà vers la fin.
Déjà vers la fin.
C'était déjà un peu tardif, mais on a quand même réussi à faire énormément de production. Ça fait passer 1,5 kg par mètre carré par mois, ce qui est pas mal, sachant que c'est en plus du maraîchage très diversifié. Par exemple, sur une parcelle d'une bande de 1,20 on fait plusieurs cultures pour éviter déjà l'appauvrissement de la terre et pour qu'il y ait une rotation aussi par famille, par espace et par temps de la production.
À qui s'adressent vraiment ces potagers ? C'est pour qui ?
Alors, on va prendre les exemples qu'on a. Donc, à la Fondation Prince Albert II de Monaco, la production, c'est pour les employés de la Fondation.
D'accord, ils repartent avec leurs petits fruits et légumes. Philippe, vous êtes là, j'en profite. Vous repartez des fois avec votre courge, votre oignon chez vous ?
Ah ben, écoutez, même plus que ça, c'est qu'on ne part pas avec, c'est qu'on mange sur place. Et en plus, ça a un côté convivial. Je me souviens, quand il y a le melon qui arrive, on partage ce melon tous ensemble. Et du coup, je trouve ça très sympa. Et en plus, évidemment, pour en dire deux mots, de la Fondation, ça va tout à fait dans nos valeurs. Hein.
Il est chouette ce jardin ?
Ah ben moi je le préfère avant, hein, parce qu'avant c'était un jardin à belle époque, avec la pelouse, etc. Ben là, c'est un jardin qui vit, c'est un jardin qui évolue, et puis c'est un jardin qui va dans le sens des valeurs de la Fondation. Donc,
pas de transport, pas d'emballage.
Exactement. On a des tas de projets pour lutter contre le réchauffement climatique, contre les émissions de gaz à effet de serre. Ça commence par ça. C'est-à-dire là, on a Jessica qui tend sa main, nous on tend la nôtre, on prend le melon, là, puisque j'ai pris l'exemple de ce légume, et ensuite, toute l'équipe se retrouve dans une grande salle et on déguste le melon. Donc c'est convivialité, efficacité, enfin bon, beaucoup de positif. Fait que du positif d'ailleurs.
Ça, c'est un peu du sur-mesure, c'est-à-dire que ça se passe comme ça à la Fondation Prince Albert II parce que le terrain s'y prête, mais ça prend une autre forme ailleurs.
Alors, c'est pas seulement parce que le terrain s'y prête, mais c'est parce qu'on est à moins de 100 mètres carrés. Quand on est moins de 100 mètres carrés, ça rentre dans la formule prestation de service. Donc, ça veut dire que nous, on aménage, on récolte et toute l'année, et les fruits et légumes sont pour le propriétaire de la parcelle. Quand on est plus de 100 mètres carrés, là, on peut proposer la formule d'être exploitant agricole. Donc ça, c'est par exemple au Monte Carlo Bay, en échange d'un loyer ou bien de paniers de fruits et légumes, ou même simplement parce qu'on prend en charge l'entretien qu'il y avait déjà sur la parcelle. C'est ce qui est le cas au Monte Carlo Bay. Comme on prend en charge l'entretien et qu'eux considèrent que c'est un avantage d'avoir un potager tout prêt pour le chef, par exemple.
Tout Marcel ce qui est les herbes aromatiques, etc. Elles sont fraîches, elles sont là.
C'est très frais, c'est extrêmement frais. On ne peut pas plus frais. En fait, je suis à 50 pas du restaurant. Mmh. Donc là, on est exploitant agricole et mes fruits et légumes sont vendus au restaurant. Et c'est comme ça que je me rémunère.
Il y a des gens qui travaillent avec vous ?
Oui,
concrètement.
Absolument. Vous entendez en tant qu'employé ?
Oui.
Oui, j'ai un ingénieur agronome.
Parce que c'est du travail, ça, absolument. Tous ces jardins, tous ces mètres carrés, tous les jours à aller.
Absolument. Donc, depuis le mois d'octobre, j'ai un ingénieur agronome qui est mon bras droit. Et à partir du mois de janvier, j'aurai un maraîcher pépiniériste.
Un bras gauche, comme ça ira plus vite.
Parfait.
D'accord. Alors, j'ai regardé un petit peu sur votre site internet et c'est intéressant parce que vous mettez en avant d'autres avantages parce qu'on se dit, bon, circuit court, pas de transport, donc CO2 en moins, pas d'emballage, donc pas de plastique, ça fera plaisir à Philippe pour la Méditerranée, enfin bon, des tas d'avantages, mais vous dites qu'en plus, pour ces immeubles qui auront sur le toit des potagers, ça allonge la durée de vie de la toiture et ça apporte plus de confort pour les habitants de l'immeuble qui seraient sous les toits.
Oui, parce qu'on a quelques degrés, hein, ça se compte vraiment en degrés, mais on a quelques degrés en moins parce qu'on apporte plus de fraîcheur.
Et donc on plus a de fraîcheur l'été et au contraire un peu plus de chaleur l'hiver.
Oui, absolument, ça fait, c'est exactement ça. Et donc en dessous, ils ont un peu plus frais ou plus chaud, ça dépend. Et c'est vrai que comme on a des bacs, l'eau qui tombe dessus nos bacs ne passe pas dans les circuits donc, plus de canalisation pluviale. Et donc ça aussi c'est un effet positif et les rayons du soleil sont pris par nos bacs et ça c'est un avantage également pour la toiture qui vieillit moins vite.
Qui est mieux entretenue du coup.
Aussi également et c'est de la verdure.
Alors est-ce qu'il y a, vous avez dit 400 mètres carrés c'est ça
oui.
Au Monte Carlo Bay.
Absolument, on a 400 mètres carrés d'exploitation au Monte Carlo Bay.
Et est-ce qu'il y a déjà des toitures d'immeubles qui sont végétalisées?
Alors, pas des toitures d'immeubles proprement dit. Je suis encore en négociation avec certains immeubles parce que c'est un peu plus long. Il faut passer par le syndic. C'est beaucoup de copropriétés souvent, donc ils se réunissent une fois par année. Ça met un peu de temps de se mettre en route. Et comme j'ai l'opportunité d'avoir quand même d'autres projets en cours qui sont en plein sol, c'est un peu plus facile d'aménagement, donc je privilégie de faire ces projets en premier et ensuite je passerai sur les toits petit à petit pour m'agrandir.
Et si les habitants veulent absolument acheter ces fruits et légumes là, est-ce que c'est possible ?
Alors absolument parce que je par exemple au Monte Carlo Bay je produis trop, le restaurant n'arrive pas à suivre donc j'ai déjà proposé ma production à d'autres chefs de la principauté. Et également aux particuliers qui peuvent venir. Donc, il suffit simplement de nous envoyer un email pour nous dire quand ils ont la possibilité de passer. Et du coup, ils se présentent au potager. Ils peuvent choisir en fonction de la récolte qui a été en trop, ce qu'ils veulent.
Bon, mais espérons qu'avec vous, Jessica, et avec donc, Terre de Monaco, la principauté devienne un petit peu plus verte, même si sur les toits, ça ne se voit pas. Mais de loin, peut-être, on verra un changement dans quelques années grâce à vous. Et moins d'immeubles, moins de gris et un peu plus de vert. Enfin, je dis ça en même temps, entre le bleu du ciel et le bleu de la mer, le gris ici. Bon, vous avez choisi un titre de Pharrell Williams, pourquoi ? Freedom ?
Freedom. En fait, j'aime bien à penser que pour changer le monde, il ne faut pas rester dans le moule que la société nous propose. Et pour ça, il faut être libre. Donc,
libre de créer.
Libre de créer, ouais. Libre de faire les choses.
Merci. Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know?
You see, he left us the sun.